Killed by Hav.
On vient de parler des enjeux liés au corps, au genre, dans ces fantasmes maxi-mini. Mais il faut aussi quand même aborder les... Bon, c'est relié évidemment, mais les capacités ou incapacités psychiques et notamment cognitives. Et dès qu'on parle de maxi, tout de suite, à l'endroit de technologie, on en revient sur l'angle du trop, cette dénonciation. Il y aurait trop d'écran, trop de temps passé dessus, j'en sais quelque chose. Trop d'informations, trop de données, ça va pas. Et donc la technologie en elle-même serait... porteuse d'un fantasme de maxi-puissance qui totalisante, qui nous abrutirait indéfiniment.
Bah complètement, et ce qui amènerait avec, bah encore une fois, je ne suis pas obsédée par ça, mais la question du régime, cette fois appliquée non pas au corps, mais donc à nos pratiques avec le numérique. On entend de plus en plus parler aujourd'hui de la notion, alors je vais reparler anglais, de digital dieting, donc le régime numérique, avec un ouvrage de Tara Brabazon qui défend cette idée en parlant de l'infobésité, de l'obésité d'information. Alors elle, Tara Brabazon, elle est prof d'études culturelles, pardon, et elle parle de la relation de ses étudiants au contenu complexe, à la concentration, avec une complainte qu'on connaît que trop bien, l'idée qu'on se concentrerait moins bien, qu'on a une perte d'attention, et elle pointe le fait qu'on a accès très facilement à de très gros volumes d'informations, sans gros efforts intellectuels ou d'investigation. Et donc sa conclusion à elle, mais elle se discute amplement, c'est que nous devrions apprendre moins de contenu et que c'est plutôt l'apprentissage de l'attention qui devrait nous occuper. Donc non pas maxi beaucoup d'informations, mais un petit peu moins d'informations et plus d'attention sur l'attention elle-même.
Alors je ne sais pas si elle a raison, mais l'application Moment, avec un S dans mon iPhone, qui compte le temps où l'écran est allumé, est toujours en rouge depuis un mois. Et du coup, pour rester sur ces questions d'attention et de fitness psychique, si la formulation a du sens, peut-être que oui. Peut-être que du coup, une des méthodes, ça m'a été soufflé par Hubert Guillot d'Internet Actu, pour diminuer le temps passé sur écran et peut-être revenir dans le orange, voire dans le vert, je n'ai pas encore essayé, ce serait de passer l'interface des OS mobiles en noir et blanc. Alors ça paraît absurde, parce que c'est des écrans qui coûtent très très cher, mais via les options d'accessibilité, on peut à peu près faire ça. Bon, ça bug un petit peu. Et du coup, dès lors, toutes les icônes des applications sont toutes fades, donc le Instagram qui est tout flashy devient un dégradé dégueulasse, enfin à peine un dégradé.
Ça n'a pas de goût.
Et du coup, on ne va pas le solliciter comme un bonbon sale, tout poussiéreux. Et là, on peut-être revivre, mais alors ça pose la question de pourquoi cette surcouche technologique pour aussi peu d'effets, quoi, évidemment.
Mais alors j'ai envie d'en parler et en même temps j'ai aussi envie de faire un fork sur ce que tu viens de dire, parce que je trouve qu'on peut considérablement modifier la manière dont on est en relation avec nos outils numériques, avec ces fameuses options d'accessibilité. Moi j'avais piqué l'idée à une amie de mettre en fait mon téléphone en mode sonnerie, mais pour personnes non-voyantes ou malvoyantes. Donc mon téléphone clignotait au lieu de sonner. Bon, ça m'a amené petit à petit à tout simplement couper les sons, mais c'était assez intéressant au niveau de l'interaction, ça génère d'autres choses.
Il y a des enjeux créatifs à cet endroit-là, au-delà des problématiques d'inclusion. Il me semble qu'on peut renouveler le vocabulaire formel et d'interface pour les personnes dites valides.
Mais c'est presque bizarre d'ailleurs qu'on parle d'options d'accessibilité. En fait, ça devrait être des options d'usage alternatif. Enfin, en tout cas, il y a des usages oppositionnels qui existent à cet endroit-là. Mais pour revenir sur les questions plutôt d'infobésité, alors je pense que si vous suivez l'émission, ça m'étonnerait que Xavier n'ait jamais parlé des hikikomori. Ce sont des personnes qu'on désigne sous ce nom au Japon, qui sont des reclus ou des recluses qui passent le plus clair de leur temps en ligne, et en général dans une chambre dont ils ne sortent jamais. Mais
qu'est-ce que tu sous-entends là?
Non, c'est tes thèmes. Je suppose que tu en as parlé. Je dis pas que tu as hikikomori, attention. Cependant, sur l'info, ce qu'on appelle l'infobésité, et on sera quand même amené à critiquer ce terme qui est hyper problématique. Il existerait une sous-catégorie de hikikomori, donc de reclus ou de recluses, qui serait des hikikomori du savoir, qui pour le coup aurait une obsession ou un intérêt presque trop déployé pour le coup pour un sujet, et l'aborderait en mode maxi, donc des espèces de chercheurs mais plus, et en plus concentrés sur des micro-thèmes.
Je me reconnais un petit peu dans le côté obsessionnel que tu évoques, et c'est vrai que j'aime bien moi ces comptes Twitter qui vont parler que d'un truc très très précis. Ces micro-thèmes, et du coup ils vont être en boucle là-dessus, mais avec quand même pas mal de variantes qui rendent la chose agréable. Donc c'est une mini-ligne éditoriale, mais pour peut-être des maxis effets, paradoxalement, à pas se disperser.
Moi j'appelais ça les beaufs pointus, mais c'est pas très gentil.
Mais
cela étant, non, c'est pas bien moi qui fais la critique en plus des points de vocabulaire, mais j'ai écrit sur les beaufs, donc finalement peut-être que là il y a quelque chose à investiguer aussi. Je rebondirai quand même sur cette question de l'infobésité, donc ce fameux terme problématique qui moi m'interroge et me pose problème. Infobésité en français, c'est un équivalent du terme anglais information overload, mais Information overload, ça se traduit par surcharge informationnelle. Et ça comporte quand même pas les mêmes suggestions et les mêmes connotations que infobésité. En plus, il me semble que c'est une idée qui, en plus de stigmatiser potentiellement des personnes obèses, constitue aussi une forme de tarte à la crème. C'est-à-dire que dès qu'on a posé ce diagnostic de « Oh, infobésité, nous souffrons de l'infobésité », on se retrouve avec des solutions très ponctuelles et locales, du type « déconnecter pour se ressourcer
bah, ». On avait essayé de déconstruire dans l'émission précédente, mais au final, voilà, on en est là. C'est qu'avec ce genre de discours, on n'avance pas et on dégoûte finalement les gens du monde dans lequel ils habitent. Et il me semble qu'on a davantage besoin d'imaginer positif de connexion et de connectique optimiste que du coup de ça. Et j'ai une anecdote à propos de YouTube que je trouve intéressante et qui va peut-être à l'encontre de l'idée que les gens regardent la même chose comme des moutons, espèce d'idée reçue. C'est un site web qui du coup liste automatiquement toutes les vidéos YouTube qui ont zéro vue. Et donc forcément, dès qu'elles sont vues, elles disparaissent de la liste. Et ça, c'est intéressant. Du coup, on revoit le mass-média d'une autre façon. Et donc, ça pose la question de la valeur qu'on attribue à l'audience maxi. Là, la valeur tient au fait que la vidéo n'a aucune audience.
Mais ces questions d'audience, moi, je les trouve vraiment passionnantes. Surtout que dès qu'on fait des recherches sur cette histoire de l'infobésité, de l'overload et tout ça, en ligne, on trouve 1000 guides orientés entrepreneuriat start-up sur comment survivre à l'infobésité, mais qui eux-mêmes ajoutent au brouhaha ambiant et créent en plus...
C'est la start-up nation, Pierre. On n'y échappe pas.
J'essaye pourtant d'y échapper avec tant d'énergie. Mais moi, ce que je trouve hyper intéressant aussi, et c'est dans un article de Schumpeter qu'on mettra en lien aussi sur le site de l'émission, c'est à quel point aussi cette problématique de l'infobésité, pour l'appeler comme ça, elle a généré en fait un lexique, un champ lexical et donc tout un ensemble de termes qui essayent de définir et de saisir en fait la moelle de ce qu'on est en train de vivre autour de cette surcharge d'informations. Alors je vous en livre quelques-uns, vous m'excuserez une fois de plus, c'est en anglais, mais bon, c'est des termes dont la traduction est parfois transparente. Data asphyxiation, donc asphyxiation par la donnée. Data smog, donc brouillard de la donnée. Information fatigue syndrome, bon ça se comprend assez bien, le syndrome de la fatigue informationnelle. Bon, il y en a plein, il y a time famine aussi, la famine temporelle. Alors bon, ça aussi on peut se poser la question de ce que ce genre de termes produisent à l'endroit des gens qui ont vraiment faim. Mais bon.
C'est intéressant, ça vaudrait le coup de faire relire ça par notre ami psychologue Alexandre Saint-Germain, je pense qu'il aurait plein de trucs à dire. Et sur un angle peut-être plus trollesque, cette dépêche AFP d'il y a environ un an, qui disait en substance que tous les articles en ligne se ressemblaient et qui étaient republiés tels quels par toute une bonne partie de la presse française. Et du coup, c'était assez inquiétant. Et moi, je vois ça un peu comme le design de la presse généraliste. C'est pas le problème qu'il y a plus d'argent ou de choses à faire, mais c'est que trop de gens font la même chose et qu'on n'en peut plus, quoi.
Ben moi, je trouve en même temps, comme tu disais, Anthony, il faut toujours aller essayer de voir des points ou des endroits de créativité comme ça sur ces pratiques-là. Moi, il y a une expérimentation que j'adore qui avait été faite par Matt Onan de la revue Wired. Il a essayé pendant un temps assez court, il me semble une semaine de mémoire, de tout liker sans discrimination sur Facebook, mais vraiment tout ce qui passait sur son thread, il likait, c'était les photos des enfants de ses potes, mais aussi n'importe quelle pub. Et en fait, en likant tout, de manière indiscriminée, il a vu son feed complètement évoluer. Et donc, il en a conclu la chose suivante, c'est que plus on like, plus le contenu est commercial, parce qu'en likant tout, c'était quand même les contenus commerciaux qui étaient privilégiés. Et au final, à force de liker des choses, on va dire le tout venant de ce qui lui était proposé sur son feed, il a vu son feed évoluer vers les fake news et, on va dire, pencher du côté de la boussole politique sévèrement vers l'extrême droite. Et c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en ne faisant rien ou au contraire en faisant tout, mais du coup de manière indiscriminée, on se retrouve avec un biais qui est quand même assez parlant.
L'extrême du maxi-like, alors je ne sais pas s'il y a une app pour ça, mais je sais qu'il y a un plugin pour ça, ou en tout cas plusieurs plugins, qui permettent d'auto-liker tous les posts Facebook, les vidéos YouTube, j'en ai trouvé pas mal. Et alors c'est plutôt utilisé dans un autre angle, c'est pour brouiller le ciblage publicitaire et ce qu'on appelle les bulles filtrantes. Alors bon, c'est aussi soumis à controverse cette théorie, mais du coup voilà, c'est de spammer par l'obfuscation de rendre KO les GAFA sous trop de maxi données. Et donc peut-être que c'est ce que tu appelles data smog, une maxi pollution de données, peut-être pour mieux respirer derrière.
Ouais, je sais pas, moi je peux pas m'empêcher de préférer quand même la technique de Matt Onan, c'est un peu le harakiri de la notification, il s'est auto-spammé. Ah,
c'est de l'artisanat du spam aussi, ça à la main quoi.
Ouais, mais il y aurait une histoire du spam à faire d'ailleurs, c'est un peu concomitant de l'invention du web, non?
Sans doute, ou du troll.
Non, ça date d'avant, c'était 78.
Ah,
le premier spam.
Le tout premier spam.
On retrouvera Richard Stallman, mais donc c'est un autre épisode.
C'est Internet en tout cas.
Mais c'est un rapport effectivement à l'obésité, à la trop grande place qu'on met sur nos boîtes email parce que on a du bruit dedans.
Mais en fait, il s'est auto-spammé, ton mec.
Complètement, complètement. Mais ça va, ça découle un petit peu l'imaginaire aussi positif du web. Hein. On connaît Tim Berners-Lee, qui est quand même son inventeur reconnu. Bon, il dit souvent, ou en tout cas, il est rapporté qu'il disait vouloir faire une nouvelle tour de Babel. Bon, est-ce que c'est pas un peu facile aussi de se dire qu'à la place, il a créé une grande poubelle, quoi?
Ah, c'est sympa.
Bah non, le pauvre, mais j'adore Tim Berners-Lee. Mais non, mais au-delà de ça, il y a quand même la question de la mémoire et de ce qu'on garde de ce flux informationnel, parce que c'est quand même ça l'enjeu. Et il y a un article de The Atlantic qui posait la question, on va quand même citer notre revue préférée aujourd'hui, un article qui demande pourquoi on oublie la plupart des livres qu'on lit. Et cet article-là, elle mérite d'essayer d'expliquer comment notre cerveau fonctionne. Donc là, on n'est pas loin des neurosciences un petit peu, mais pas que. Dans l'article, il est question de la courbe de l'oubli. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la mémoire de souvenirs s'effriterait et on reviendrait à la place une mémoire de reconnaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se rappelleraient moins de données brutes, de faits, de dates, de ce que nous, on a pour coutume d'appeler la connaissance, et se rappelleraient davantage d'éléments contextuels. C'est-à-dire, par exemple, si je te demande de quoi parlait Kid by App 3, tu n'auras aucune idée. Par contre, tu sauras très bien où ça se situe dans ton architecture de Google Drive et tu sauras très exactement
On revient ressentir. À l'ère de la mémoire où on plaçait des connaissances dans des pièces, sauf que là, on se rappelle des pièces et pas ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pareil. Paradoxal.
Complètement, c'est ça. Mais en même temps, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que ça... Enfin, moi, en tout cas, dans mes usages, j'ai l'impression de me muscler le cerveau quand je fais ça, quand j'essaie de retrouver des arbres de données, des chemins.
C'est ça, c'est pas qu'on devient
chemins.
Plus bête, c'est juste qu'on est en train de muter, quoi. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Ce fantasme de connaissances infinies débouche en fait sur d'autres capacités psychiques et en affaiblit d'autres.
Ouais, et en même temps, j'ai l'impression qu'il faudrait pas non plus trop verser dans une espèce d'enthousiasme absolument... univoque pour ça, c'est-à-dire que l'intelligence, c'est peut-être pas que de tracer des chemins. Enfin, là-dessus, il y a peut-être une manière de reconsidérer ce qu'on appelle l'intelligence. Bon, voilà, tout ça avec le maxi.